Sceptique au pub, soirée du 21 octobre 2011. C'était une soirée où nous avons juste, il n'y avait pas de conférencier, nous avons juste discuté entre sceptiques. Et le prétexte pour cette rencontre, c'était le jugement dernier, d'après Harold Camping.
On m'avait dit qu'il y aurait des sceptiques, enfin des gens débutants qui ne savaient pas c'est quoi le scepticisme. Donc j'ai préparé ma bibliothèque de base, donc j'ai juste présenté un peu les différents livres qui sont des livres de référence en français et puis en anglais. Et puis j'ai des articles, un peu de l'actualité, des choses qui devraient interpeller les sceptiques, dont on va évidemment parler d'Harold Camping et de la femme. C'était le prétexte à notre réunion d'aujourd'hui.
C'était hier, non ?
Oui.
C'est dans 55 minutes.
Non, mais c'est, non, c'est passé.
Non, mais attends, c'est peut-être commencé à l'autre bout de la terre.
Ah, ouais, ouais, ça tout. On l'aurait entendu. Allô ? Ah, allô ?
Où ça a eu lieu, mais on
le sait. Oui, oui, c'est ça. En fait, des fois du monde, il y en a beaucoup. Hein. Quand les William Miller au 19e siècle a prêché la fin du monde pour le 22 octobre 1844. Donc les gens avaient vendu leurs fermes, leurs animaux, etc. En fait, ils attendaient, ils priaient et tout ça. Et le 23 octobre, ils étaient toujours là. Et William Miller a dit, les calculs sont justes. Je me suis trompé sur, non pas sur les calculs, mais sur l'interprétation, c'est-à-dire c'est pas la fin du monde, c'est l'entrée de Jésus comme souverain sacrificateur dans le Saint des Saints du temple qui se trouve dans le ciel.
Et c'est le fondateur des
Adventistes. Pas le fondateur, mais il est à l'origine des Adventistes du septième jour. Ouais.
Ah bon, bref, on est déjà dans la discussion. Donc, vraiment, pour revenir au B.A.B.A., je crois qu'il enfin, bon, y a quand même des gens qui savent pas trop. Quelques livres vraiment d'introduction. Alors, il y a Henri Proc, même s'il travaille sur le terme de zététique, qui est un terme utilisé uniquement en France.
Attends, ne bouge pas le livre, c'est pas bon.
Alors,
c'est une meilleure idée.
J'ai pris les livres, je les présente dans l'ordre de ceux que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus, donc c'est celui que j'aime le moins en fait. Mais Henri Proc est probablement le zététicien le plus célèbre. Parce que c'est un livre vraiment d'introduction très introductive, un peu à la pensée critique.
Puis je ne recherche pas qui ait pris le Nobel de physique.
Ah ouais, non, c'est pas grave.
Je suis un reporter.
Je pense qu'il est facilement accessible, c'est ça son avantage, ça a été un best-seller. Moi, ce que je lui reproche un peu à ce bouquin-là, c'est qu'il y a Georges Harpa qui parle beaucoup du nucléaire, ce qui n'est pas vraiment un sujet à traiter aussi ici. Et aussi que Proc, je trouve qu'il vulgarise trop, en fait, hein, le débat sur le paranormal. Je trouve qu'il aurait dû aller un peu. Quand, à un certain moment, on vulgarise tellement que ça doit.
Non, ça va, j'abandonne le flash.
Alors déjà, un que j'aime bien, c'est Michel de Fracontal, l'imposture scientifique en édition. Donc, Michel de Fracontal est édition de la découverte. Ça date d'il y a une dizaine d'années. À l'époque, c'était un des rares livres sceptiques qui existait en français. C'est une revue de la littérature sceptique, en fait. Il aborde un peu tout, l'homéopathie, la parapsychologie. C'est un journaliste scientifique, donc c'est vraiment très bien fait. Là, je le conseille chaudement. La science face au défi du paranormal est beaucoup plus difficile à trouver à mon avis, mais je le présente parce que c'est le livre de du comité para, donc l'association sceptique francophone belge, dont je ne suis pas membre.
Je l'ai acheté l'autre fois, moi.
Tu l'as acheté ?
Non, mais t'es pas encore.
Oui, t'es pas encore.
C'était celui du magicien.
Non, c'était celui-là. Il semble que c'est celui-là.
C'est celui-là. Parce que Jean-Charles Codeur qui donnait la conférence est membre et il a écrit.
Ah oui, c'est ça, il avait apporté quelques bouquins.
Je l'ai ramené parce que. Alors, ce livre-là couvre tout, l'éventail de tous les sujets par thème, ovni, paranormal, etc. Bon, parfois je suis pas. Il n'est pas vraiment up-to-date sur tous les sujets parce que les membres du comité des parents sont un peu âgés, parfois ils n'ont pas gardé. Et donc, sur le phénomène ovni par exemple, où là je suis plus spécialisé, que je trouvais que c'était plutôt bof-bof. Mais. L'avantage, la partie historique nous explique la naissance du mouvement sceptique en Belgique, puisque c'est la première organisation sceptique au monde. Mais bon, ça reste quand même une excellente introduction. Guide critique de l'extraordinaire, par Renaud Maric, avec une préface d'Henri Brock. c'est vraiment super bien fait. Alors, il est richement illustré à l'art derrière. Il y a plein de sur l'astrologie, etc. C'est très pédagogique. Ça, c'est vraiment une super introduction. Même qui s'adresserait à des adolescents, je dirais, en fin de secondaire, pour expliquer pourquoi l'astrologie, ça tient pas la route. Il couvre aussi le spiritisme, les ovnis, etc. Ça, je l'aime beaucoup, hein, comme livre pour faire découvrir, qu'ils soient pas trop techniques. Alors, les livres qui commencent à être plus hardcore. petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bailly-Argent, qui est un francophone mais qui habite au Québec. C'est un livre pour enseigner la pensée critique. Il aborde tout ce qui est raisonnement fallacieux, mauvais usage des statistiques, toutes les manières dont on peut transformer. En fait, c'est pas comme le titre l'indique, c'est un guide d'autodéfense intellectuelle pour détecter la foutaise. C'est à l'équivalent en anglais de Carl Sagan, j'ai oublié le terme de Carl Sagan. Comment il appelle ça?
De
Balloony Detection Kit.
Il parle des fermes au Sagan.
Ah, je ne me souviens plus, il a encore un jour. De toute façon,
c'est pas que la scepticisme est critique.
Ça c'est. Alors là, on passe maintenant. Donc, c'est celui que je recommande le plus aux sceptiques débutants en français. Parce que c'est celui qui donne les outils intellectuels.
Chez moi,
comment réfléchir à propos des sujets. Parce que c'est vraiment. Tous les raisonnements fallacieux, aussi les parties sur les stades, des introductions à la logique, bon, pour les philosophes, ça les connaissent, mais les bases de la méthode scientifique, c'est quoi l'expérience en double aveugle. Alors en anglais, Michael Shermer, Why People Believe Weird Things, c'est donc pourquoi est-ce que les gens croient des choses bizarres. Et donc c'est un livre où il aborde toutes sortes de croyances, toutes les croyances dont on parle pour le moment, mais. La question qu'il essaye de répondre, c'est pourquoi est-ce que les gens croient des choses bizarres, donc d'un point de vue psychologique. Et une des réponses qu'il donne, ça va être que les gens croient des choses bizarres parce qu'ils sont très bons à les rationaliser, donc à trouver des raisons valables. Et c'est ce qui est particulièrement difficile parce que les gens très intelligents sont particulièrement bons à rationaliser leurs croyances. Donc ça, c'est vraiment un classique en anglais. Michael Shermer est le fondateur de la Skeptic Society. Ça conclut après. Donc,
Carl Sagan, au dernier.
Alors là, le best of the best, le meilleur. Carl Sagan, The Demon of the Haunted World, Science of the Candle in the Dark. Donc le monde entier par un démon, c'est le démon de l'irrationnel. La science comme une chandelle dans les ténèbres. Et là, vraiment, c'est le livre qui a fait exploser le mouvement sceptique dans le monde anglo-saxon, parce que Carl Sagan était un astronome qui a fait l'émission.
Oui, connu.
Ce livre est aussi disponible en audio.
En audio, oui.
Mais Carl Sagan, je ne connaissais pas bien, moi, mais... Allez, bêtement, je confondais avec François Sagan. C'est ce que tu dois faire une fois. Le plus beau vidéo sur YouTube.
Oui,
tu dois simplement entrer Pale Blue Dots.
Non, mais c'est pas une chanson.
Non, c'est pas une chanson.
C'est un monologue de Carl Sagan sur la Terre.
Ah, c'est bien, ça doit être.
Mais parfois, je fais des chansons avec Carl Sagan, mais c'est pas des chansons.
Si après ce monologue-là, on devait mettre des gens sur les murs et les fusiller, tous les communistes, tous les Américains, tous les militaires seraient contre le mur, ils seraient décimés. C'est extraordinaire.
Il dit justement que c'est pas fait ça.
Mais...
que c'est absurde de faire.
Oui, mais bon, c'est papa qui fout une raclée à tous ces gosses, sales gosses, qui font comment.
Carl Sagan, pour ceux qui connaissent pas.
Il a fait une émission télévisée qui est disponible en DVD actuellement.
Oui, ça s'appelle Cosmos. Historiquement, c'est le documentaire scientifique qui a été le plus vu dans l'histoire du documentaire.
Et encore maintenant.
Encore maintenant,
il est visionné à une vitesse. Les gens le voient.
Non, parce que Carl Sagan, il a une plume, il sait écrire de manière extrêmement. enfin, c'est difficile. De toute façon, vous voyez, il a son fan.
Il a quelques bouquins aussi, il a fait de la science-fiction.
Donc, il a écrit le film Contact.
De la science.
Contact, il a écrit Contact.
C'est basé sur un de ses romans. Et il est aussi, il a été un des fondateurs du programme SETI pour la recherche.
SETI pour les extraterrestres.
Écoute, j'ai un signal au dos des extraterrestres. Donc voilà. Malheureusement, ça n'a jamais été traduit en français.
Nous
allons
apprendre l'anglais.
Et alors, les deux revues principales, c'est Skeptical Infra, revue donc du SciComm, donc organisation américaine. Là, c'était par exemple, j'ai pris un numéro, enfin, c'est un des numéros que j'ai juste sous mes yeux, parce que je l'aime bien, c'est à propos de la communication avec les morts. Comme je suis très intéressé, ça critique une recherche en part sur la psychologie.
Aux États-Unis, le mouvement sceptique est tellement important qu'ils ont leur propre revue. Comme ici, on aurait une revue psycho...
Mais pas sur Morvan.
Ils en ont deux.
Ils ont... Les religieux, chez eux, sont tellement puissants qu'ils ont plusieurs magazines.
Tout à l'heure.
Donc, ouais. Faut voir un peu...
Mais c'est vrai.
Je veux dire, quand tu as une église de 15 000 places qui remplit 4 fois par semaine, ça fait 50 000 personnes toutes les semaines qui donnent chacun quelque chose, ça coûte milliards. Hein. T'as pas le droit.
Voilà, et là c'est la revue donc, de Michael Shermer, Skeptic Society, ça a un numéro avec Richard Dawkins. The Code Illusion.
Et je propose que tu nous les laisses pour qu'on regarde, parce que moi je connais pas du tout la revue.
Ben, je vais laisser, je laisse tout comme ça.
Tu vas sur YouTube, tu cliques, tu
tapes Richard. Je trouve quand même floppé. Ce qui m'intéresse, c'est que tu n'as pas de magazine francophone. Il existe quand même.
La science et pseudo-science.
C'est pas vraiment un magazine, c'est plus discret que oui. Un magazine.
Oui, c'est plus discret. Mais c'est distribué dans les bonnes librairies.
Ça, c'est quand même grand public.
C'est partout.
Et on les trouve en Belgique, ces revues?
Non, ça, je les ai ouais. Abonné.
Je sais pas les avoir via ici ou via. En face de l'ambassade américaine.
Oui. Ah oui, peut-être nous en beaucoup là, ouais, c'est possible.
Oh, attention, moi je m'abonne, ça je les ai.
Oui, là on était tranquille, c'est sûr. Mais à mon avis, il doit y avoir peut-être moyen de trouver.
Je crois que celle-là, c'est peut-être un tous les deux mois. Mais celui-là,
celui-là. Okay. Non, celui-ci, tu peux le voir aussi par email. Donc tu peux t'abonner par email et tu reçois une version raccourcie électronique.
C'est pas gratuit.
Non, c'est par abonnement.
L'abonnement est moins cher.
Moins cher, évidemment.
Ah oui, c'est normal. C'est normal si tu as un abonnement virtuel, tu n'as pas le frais d'impression.
Non.
Donc, c'est tout
voilà, c'est un peu crash course. Enfin. Mais sinon, quelques nouvelles. Alors, j'ai vraiment pris des choses qui sont dans l'actualité récemment. Je terminerai par Harold Camping. Dans l'actualité sceptique récemment. Donc, en plus, si on a découvert des preuves irréfutables, entre guillemets, de l'existence du Yeti.
C'est dans une région où il y a déjà du tourisme pour le Yeti.
Voilà, exactement.
Il y a des choses.
Donc, une délégation internationale de scientifiques a collecté des preuves irréfutables de l'existence du Yeti dans la région russe du Kemerovo en Sibérie, a annoncé l'administration régionale sur son site internet. Alors, ce qui est formidable, c'est que le gars nous dit la religion. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est des traces, un lieu où les Yétis sont supposés se réunir, et peut-être de l'air, un poil de cheveux. Et il met la région de Kemerovo souligne dès lors que ces trouvailles prouvent à 95% que l'homme de neige vit sur son territoire. Pourquoi 95%?
Oui, c'est ça.
Ils sont quand même assez intelligents de ne pas dire pour 200%.
C'est vraiment des chiffres. Vraiment, effectivement, comme tu soulignais, la région du Kemerovo cherche à développer le tourisme, on l'avait compris. Mais sinon, ce qui est. Évidemment, ce qu'ils ne mentionnent pas dans cet article, c'est que même ce qu'on trouve régulièrement, des poils de Yeti, Bigfoot, etc., mais évidemment, ça trouvait un poil.
Ça peut être un poil de lama ou de.
La question, c'est pas de trouver un poil, la question, c'est de faire une analyse d'ADN pour savoir, mais il ne prend pas d'ADN. analyse d'ADN, on a trouvé un point. Ok.
C'est supposé après ce livre Yeti.
Alors, aussi, Elisabeth Tessier avait prédit la victoire de Martine Aubry à la primaire socialiste.
Ah, mais c'est pas de France.
Elisabeth Tessier, c'est la plus célèbre astrologue française.
Elle a une thèse doctorale sur
en astrologie, en sociologie.
Non, en sociologie. Une
thèse doctorale sur l'astrologie ou pas ?
Non,
en sociologie. Non, c'est sur la sociologie de l'astrologie.
C'est ça, mais c'est sur l'astrologie, mais c'est en sociologie.
Oui, oui, ok.
Ça a fait scandale à l'époque.
Non, ce qui a fait scandale, c'est qu'elle ait utilisé le fait qu'elle avait passé une thèse et qu'elle l'utilisait à la limite à des fins commerciales. Voilà.
Oui, et puis évidemment aussi.
Et qu'elle détournait un peu le sens du titre qu'elle avait reçu.
Le niveau de la thèse était évidemment déplorable. Ouais. Il l'avait passé à la moulinette. Mais alors évidemment là où ça devient plus compliqué, mais ça c'est plus l'histoire de philosophe, c'est parce que le professeur qui a accepté cette thèse là est un postmoderne, donc il considère qu'on ne peut pas distinguer science et pseudo-science, etc. Tout se vaut, donc forcément si on peut rien distinguer.
Ce qui est important, c'est pas le vrai, c'est la réussite et l'événement, comme dirait Mme Stengel.
Voilà. Donc c'est ça aussi qui faisait scandale. Hein. Et voilà, donc elle a fait une prédiction. Déjà, elle avait prédit cette année. Elle n'a vraiment pas eu de bol cette année, parce qu'elle a prédit que ce serait une année extraordinaire pour Dominique Strauss-Kahn. Génial.
On dit quand même.
Alors dans une interview, elle dit : je suis sûr que sur son lit de mort, Dominique Strauss-Kahn reconnaîtra que l'année la plus incroyable de son existence fut cette année.
Ah oui, ça.
Et alors Oui, enfin voilà. Et donc elle s'est plantée pour les élections françaises.
Ah maman, c'est gênant, ouais.
Elle n'a pas donné d'explication par après.
C'est toujours dangereux comme l'être trop spécifique.
Mais c'est pour ça qu'ils sont très vagues, très généralistes. Mais alors, ah oui, vous voyez, je l'avais dit, hein, c'était une année exceptionnelle pour lui. Oui, bon, il y a eu quelques petits. Voilà, des réajustements. Mais on a parlé de lui dans la presse, voilà, c'est bien la vue.
Voilà, alors aussi par rapport à Steve Jobs, on a tous entendu parler de sa mort, et alors il se fait qu'il était donc atteint d'un cancer du pancréas, mais qui avait été diagnostiqué de manière précoce. Donc, enfin, le titre de l'article là, ça a été couvert un peu partout. Une opération aurait pu traiter son cancer. Donc, il avait un cancer du pancréas qui a été détecté de manière précoce.
Il avait le même médecin que Michael Jackson.
C'est
le seul cancer qui est non traitable, le cancer du pancréas, c'est.
Ah, c'est pas ce que j'ai lu en tout cas, et certainement pas dans cet article. Enfin, j'ai lu différents articles. Je peux t'assurer que j'ai lu plusieurs articles écrits par des médecins qui ne donnaient pas le même avis. Quoi qu'il en soit.
Mais je pense que, non parce que j'ai aussi lu des articles qui confirment ce que Jean-Michel dit, et donc à mon avis, c'est, si on est capable de le découvrir très tôt, c'est traitable, mais très vite, c'est plus traitable.
C'est fulgurant.
Et ça, c'est ce qui s'est passé avec lui.
Et donc, ils lui ont demandé de faire l'opération chirurgicale qui aurait pu augmenter pratiquement ses chances de survie, et il a refusé cette opération chirurgicale, donc d'après une autobiographie qui va sortir prochainement, sur le fait qu'il ne voulait pas qu'on ouvre son corps, et il a choisi de suivre un régime à la place.
Et voilà.
Et voilà.
Et donc il est mort.
C'est intéressant. Il a suivi la pseudo-médecine au lieu de. Enfin,
ah, mais ça, il y en a beaucoup.
Ouais, ou bien il n'est pas humain, en fait, tout simplement. Tout simplement, ça. Il n'a pas envie qu'on découvre la vérité.
Ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir pourquoi les gens font ça. Et ça, je crois que c'est la psychologie sociale, par exemple, qui peut s'intéresser à ça. Mais moi, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune dans une association d'aide aux malades du sida. C'était au début, c'était dans les années 80. Alors à l'époque, on ouvrait du sida. Maintenant, on peut le conserver toute sa vie, plus ou moins, si on se débrouille bien. Mais c'est pénible, mais enfin, on survit. Mais à l'époque, on mourait en moins de 2 ans. Et je me souviens avoir vu des types qui étaient dans des états épouvantables, quoi. Vraiment, je les reconnaissais pas, quoi. C'est terrible. Mais alors, ils essayaient tout, hein, mais tout, hein, des régimes, n'importe quoi, enfin, des trucs les plus aberrants.
C'est parce qu'ils ne savaient pas.
Mais c'est parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils voulaient tout essayer, et ils s'accrochaient à tout et n'importe quoi. Donc n'importe quel prophète qui passait pour dire, tu manges 3 radis et une carotte et ça ira beaucoup mieux, et ils le faisaient. Ils doutaient de la science officielle, mais la médecine, évidemment, à l'époque, était encore un peu sans réponse. Hein.
Steve Jobs a refusé son
traitement.
Ouais. C'est un moyen de commencer à faire
son envie. Tu vois son parcours, ça ne m'étonnerait pas. Parce que je sais qu'il y a un an et demi, il avait déjà pris un sabbatique de son poste pour des raisons médicales.
Oui, oui, mais c'était à cause du temps qu'on portait, parce que ce que Jean-Michel vient de raconter, c'était en 2003. Donc en 2003, il a été diagnostiqué avec cancer de pancréas. Mais de modèle, d'une mort très préliminaire. Donc il était encore traitable. Et à ce moment-là, il a décidé, pendant un mois, de ne pas se laisser traiter par un chirurgien.
Juste avant qu'on discute librement, je vais juste parler de Harold Camping, pour ceux qui ne savent pas. Donc Harold Camping est un évangéliste américain. Il est responsable de ce qu'on appelle maintenant des méga churches, des églises gigantesques, avec énormément de monde. Il a sa propre chaîne radio aux États-Unis. Et donc, sur base de calculations, j'ai pas trouvé sur Internet.
Il a pas précisé. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il avait interprété 2 phrases de la Bible, qu'il avait aidé ces 2 phrases-là, qui avaient été écrites par Dieu en cachant la vérité, parce que Dieu ne voulait pas que le monde s'arrête. À partir de ces 2 phrases-là qu'il a lui décodé, il a élaboré sa théorie, mais c'est tout ce qu'il dit sur la méthode.
Donc ce qu'il a annoncé, c'est que le 21 mai dernier, ça serait ce qu'on appelle en anglais rapture. Est-ce que tu as une traduction pour rapture?
Enlèvement.
Enlèvement pour aller au ciel.
Normalement, la rapture, c'est une idée très populaire chez les évangéliques américains, mais pas trop chez nous, je pense. Et qu'à la fin des temps, les bons chrétiens seront carrément physiquement enlevés, ils s'élèveront.
C'est dans l'Apocalypse.
Oui, dans l'Apocalypse. Oui, dans l'Apocalypse. Et donc, les incroyants seront laissés sur Terre, et d'autres, on verrait les bons croyants s'envoler dans le ciel. Il y a une série.
Toi, t'es mal, toi.
Ah oui, il y a une série de romans qui est un méga best-seller aux États-Unis qui s'appelle Left Behind, donc laisser derrière. Ça vend à des millions d'exemplaires en 7 ou 8 volumes au minimum, qui raconte justement sous forme de science-fiction, enfin, les auteurs y croient, un scénario plausible de comment ça pourrait se produire d'après eux, de groupes de gens qui seraient des incroyants et qui verraient les chrétiens s'envoler dans le ciel et comment ils devraient survivre à la fin des temps après.
Ça a été
Donc il avait annoncé le rapture, ça c'était pour le 21 mai, et l'Apocalypse pour aujourd'hui. Mais alors évidemment, il avait fait passer donc, des camions avec des affiches publicitaires.
Tu dis que le rapture, donc tu as dit c'est les chrétiens qui s'élèvent dans le ciel. Ce qu'il faut préciser, c'est que après le 21 mai, une fois qu'il s'est rendu compte que rien ne s'était produit, le rapture n'était plus que si rituel. Et donc, c'était simplement la deadline à laquelle les dieux allaient décider qui était sauvé, qui était damné. Donc, après le 21 mai, plus moyen de se rattraper, plus moyen de se racheter, tous les jeux sont faits. Et c'est à partir de là qu'il n'en est plus au 21 octobre.
En fait, oui, j'arrivais là, mais effectivement, parce que sa prédiction ne s'est pas produite, c'est-à-dire que les gens ne se sont pas physiquement envolés dans le ciel. Donc, il a été en dissonance cognitive, comme on appelle ça en psychologie, c'est-à-dire qu'il a cherché à rationaliser. En fait, ce qu'on prédit en psychologie, c'est ce que tu parlais, quand c'est contre-intuitif, mais quand ce genre de prédiction est chou, au lieu de faire naître le doute chez les croyants, ce qu'on sait en tant qu'observeur psychologique, c'est que ça renforce leur conviction, au contraire. Le groupe se resserre et il trouve une autre.
Il se resserre aussi.
Donc il y avait le livre le plus célèbre de Festinger, qui est le créateur de ce concept de groupe dissonance cognitive. Il a étudié une secte Spoopy qui disait qu'elle allait avoir la fin des temps et qu'une soupe volante allait venir les chercher. Évidemment, ça ne s'est pas produit. Le lendemain, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'en fait, ils avaient tellement prié que les extraterrestres avaient sauvé la planète. Il y a eu énormément d'expériences en psychologie par la suite. En fait, on est tous sujets à la dissonance cognitive. Hein. C'est-à-dire que quand on prend une décision, toutes les informations contraires qui nous prouvent qu'on aurait pris une mauvaise décision, on les rationalise, on a du mal. C'est très très difficile de ne pas rationaliser. Par exemple, l'exemple classique, c'est que si on achète une voiture, on enregistre très bien toutes les informations qui nous confirment qu'on a choisi la bonne voiture. Et toutes les informations qui nous disent que c'est une mauvaise voiture, on les efface. Et donc, les sceptiques étaient là, bon, c'est bien que l'apocalypse n'est pas arrivé, donc quelle rationalisation il va trouver. Harold Camping, donc, il a été deux jours dans son bunker en train de réfléchir. Et puis... Et puis après deux jours, voilà, il a annoncé que...
Il y a eu des vidéos sur YouTube absolument extraordinaires. Une qui a été vue, mais je ne sais pas où est Miron. Maintenant, le monde va mieux. Tous les chrétiens ont foutu le camp, donc il n'y a plus de problème de chômage. Il n'y a plus de problème de temps. On a de l'argent. Il n'y a plus de problème de guerre. Ils sont tous partis. Voilà.
Et il n'y a plus personne en prison parce qu'aux États-Unis, il y a que les gens en prison sont des chrétiens. It's time to
change history. Unbelievable. The whole world turned upside down.
What if?
This is insane. People don't just disappear.
What's next, huh?
You knew.
Your people are missing. Dozens of seats empty.
What's going on, Captain?
This.
Come on. How do you hide from something like this?
Was about to happen.
I am standing in the middle of an all-out attack.
Prepare to witness.
Are you telling me that they're dead? That they're not coming back?
An ancient prophecy.
Thousands of years completed.
It's written in the scriptures, I guarantee it.
About to become true.
What's coming?
It's gonna get a lot worse.
Based on the New York Times bestseller.
They're not here. They're not anywhere.
Left behind.
You've used our dreams against us.
Nobody just walked off this airplane. We are at 37,000 feet.
I don't know if they're dead or lost.
Or even worse, but more of us disappear.
The sun is gone. Fire is raining from the sky.
Fear.
When is the last time you slept?
I'm gonna get you to a safe house.
Deception.
In the garden, there was a serpent.
Do you know who you're dealing with?
Do you?
Faith.
I know your message. I knew your words.
Left Behind, the movie.
All that's true.